Évangile de Luc, chapitre 12, verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître vienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait, ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Hein? Pour imager son exhortation, on pourrait dire son ordre, puisque c'est le Seigneur quand même, il va nous donner une parabole, une image sur l'attitude des serviteurs d'une maison qui se tiennent prêts, même au milieu de la nuit, à ouvrir la porte à leur maître. Ils sont en tenue de travail, les lampes sont restées allumées et les serviteurs veillent. On remarque quand même que ce sont des domestiques qui sont en service 24 heures sur 24. On ne peut pas dire que ce soit des employés. Ils ne font pas 35 heures. Hein. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, on remarque que dans le Nouveau Testament, le mot grec doulos, qui était traduit là par serviteur, il a une connotation un peu d'esclave quand même, hein, pour l'époque bien sûr. Par exemple, on lit Romains chapitre 1er, verset 1er, c'est écrit Paul, serviteur de Jésus-Christ, c'est Paul doulos de Jésus-Christ, Paul esclave par amour d'un maître qui a donné sa vie pour lui. Hein, c'est ça, bien sûr. Alors Jésus dit qu'ils sont heureux d'être trouvés veillants, que ce soit la deuxième ou à la troisième veille. On comprend que c'est la nuit. La première veille du temps des Romains, c'était la veille du soir, elle commençait à 18h, et il y avait la veille du matin qui se terminait donc à 6h du matin, et entre les deux, il y avait la deuxième veille et la troisième veille. Alors pourquoi donc Jésus dit « Heureux ses serviteurs » ? Parce que nous remarquons quand même quelque chose d'impensable, d'extraordinaire. Le maître, à son arrivée, il va se mettre en vêtements de travail, hein, il va se ceindre, se transformer en serviteur, pratiquement en esclave. Il va faire mettre à table ses domestiques, ses serviteurs, il va les servir. Mais quel honneur! Quel honneur! Moi, je pense que le Seigneur n'a pas dit ça pour rien, hein, parce qu'il va le faire pour nous. Vous rendez compte? Est-ce que vraiment nous rendons compte? Jésus va prendre la place du serviteur pour nous recevoir. C'est extraordinaire, non? Enfin, moi, je trouve ça vraiment très, très extraordinaire. Jean-Baptiste, lui, était conscient, lui, de son indignité. On a besoin de l'être quelquefois. Il disait qu'il n'était pas digne de délier la courroie des souliers du Seigneur. Et pourtant, Jésus a dit que parmi ceux qui étaient nés de femmes, Jean-Baptiste était le plus grand. Hein? Pierre était suffoqué quand il a vu que Jésus avait mis un vêtement de travail et se mettre à lui laver les pieds. Vous vous rendez compte? Il était suffoqué. Alors vous voyez, Jésus, c'est le plus grand. C'est le plus grand. Même par l'humilité. Même par l'humilité. Il a pu dire qu'il nous a donné un exemple. Un merveilleux exemple. Vous savez que Galates 5.13 dit « Rendez-vous par la charité, par l'amour. Serviteurs les uns les autres. » Et c'est ça le vrai christianisme. Le vrai christianisme ou le chrétien met bien sous lui son orgueil, où il le laisse sur la croix,
et il est capable d'être un serviteur pour ses frères. Et c'est ça, bien sûr. Alors Jésus affirme que le maître se scindra et servira ses serviteurs qui ont veillé. Nous connaissons bien sûr l'exhortation du Seigneur, on pourrait dire l'ordre aussi de Jésus, juste avant son arrestation. Il faut dire que ces paroles-là, elles ont une dimension particulière. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez. Je crois qu'aujourd'hui, même chez les chrétiens, on se demande si quelquefois ces paroles-là ne sont pas les paroles, des paroles plus importantes, ou suffisamment importantes, disons, qui ont fait passer des choses bien avant. Jésus a dit aussi, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout. Alors, je remarque quand même que Jésus a fait une merveilleuse promesse, c'est à l'église de Philadelphie. Cette partie de l'église qui va être trouvée donc avec les reins saints et leur lampe allumée en quelque sorte, l'église fidèle qui a gardé la parole, qui n'a pas oublié le nom de Jésus, qui n'a pas renié le nom de Jésus. Le Seigneur a dit, je vous le dis dans la traduction Sommer, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Tentation ou épreuve, c'est le mot perasmos en grec. C'est le même mot finalement que tentation et épreuve. Hein. On traduit, bien sûr, les traductions ont été faites en fonction du contexte. Mais je crois que cette tentation, elle a commencé déjà à venir sur le monde entier. Elle y est. Et l'Église, elle est au milieu du monde. L'Église est au milieu du monde. Nous avons besoin de veiller. Veillons sur nos voies. Ne revenons pas à l'ancienne alliance pour le culte, pour notre service pour le Seigneur. Nous avons besoin de veiller. Hein, Jésus, c'est notre modèle par excellence. Il est écrit dans Hébreux 8:6, mais maintenant Jésus a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Vous voyez si les mots sont forts. Hein, un ministère supérieur, une alliance plus excellente, établie sur de meilleures promesses. Vous voyez que les mots ont une grosse importance. Je remarque quand même que l'apôtre Paul pouvait dire « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils ». Il n'était pas, il servait pas au niveau de l'ancienne alliance. C'était quand même un homme qui avait réalisé tellement de choses, qui avait eu tellement de révélations. Il pouvait dire « Dieu que je sers en mon esprit ». Il y avait une dimension supérieure, cette dimension était spirituelle et basée, bien sûr, sur l'évangile de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que quand il y a persécution, et il y a des endroits où nos frères souffrent, je crois que nous avons besoin de penser beaucoup à eux dans leurs prières, dans nos prières, il y a de la souffrance sur cette terre, c'est terrible. C'est terrible. Mais c'est vrai que quand on remarque quand même que quand il y a persécution, la foi, elle est bien vivante, hein, quand même. Hein, ceux qui sont au Seigneur, hein, ce ne sont pas des mous. Hein. La foi est mise à l'épreuve. Les chrétiens authentiques s'attachent encore davantage au Seigneur, s'attachent encore à sa parole. Par contre, le plus dangereux pour l'Église, c'est la tentation, c'est la séduction de ce monde. C'est le besoin ou le désir d'être et de faire comme le monde, de ne pas être différent, et surtout de passer un peu inaperçu au milieu du monde. Alors que nous sommes des témoins de Jésus-Christ, on n'est pas appelés à être des caméléons, et surtout pas à prendre les habitudes de ce monde de perdition. Que vos reins soient sains. Alors, les reins, il y a la pensée de la force. Que vos reins soient sains, il y a la pensée du service de chacun de nous, du service de l'Église au milieu d'un monde qui est hostile à Jésus-Christ. Ce monde est hostile à Jésus-Christ. C'est pas facile tous les jours, hein. Alors pour nous, les retraités, c'est un petit peu moins dur. Ouais. Quand je travaillais, hein, je sais que c'était pas facile tous les jours. Aujourd'hui, on a la vie plus facile, c'est sûr, mais enfin, nous avons tous besoin de discernement. Le discernement spirituel, vous savez, c'est pas une qualité naturelle dans l'être humain. Quand on voit Adam et Ève, ils ont tout à fait manqué de discernement. Ils se sont fait embobiner. Eh oui. Alors, pour résister à cette puissance de séduction, à cet esprit d'égarement du monde, nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Nous avons vraiment besoin du secours du Saint-Esprit. Mais il y a notre part. Il y aura toujours notre part, notre décision personnelle. Dans ce mot, Romains 12, 12, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ne vous laissez pas modeler. Ne vous laissez pas faire. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence de votre pensée. Or, certains chrétiens, vous savez, ils ont vécu des choses extrêmes. Aujourd'hui, il y en a encore qui vivent des choses extrêmes. Moi, je pense à Marie Durand qui avait été enfermée 38 ans dans la tour de Constance. Ils en étaient arrivés à graver sur la margelle du puits « Résister ». C'était marqué dans la pierre. Résister. Résister. Malgré l'emprisonnement, malgré la pauvreté, le froid, la promiscuité, elle a refusé d'adjurer sa foi. C'est beau, quoi. C'est de belles images. Il faut être conscient que ces gens-là sont des exemples et nous avons besoin de résister. Et bien sûr, l'Église dans notre pays, elle subit un pilonnage tout différent actuellement. C'est plus subtil. Peut-être ça va changer, remarquez. Peut-être ça va changer. Mais pour l'instant, c'est subtil. Seuls les fidèles qui refusent de se laisser modeler par le monde, qui vont ceindre leurs reins avec la ceinture de la vérité, vont pouvoir résister à la pression de l'esprit de ce monde. Alors les reins nous parlent de force, oui. Le Seigneur nous l'a donné. Il a dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il nous faut avoir la vision de la grandeur de l'œuvre à laquelle nous travaillons. Ça, c'est important. Celui qui travaille doit avoir la vision de l'œuvre à laquelle il travaille. Vous connaissez bien sûr l'histoire des trois tailleurs de pierre. Je ne vais pas vous l'apprendre. Vous l'avez certainement déjà entendu. À chacun, on va poser la question. Qu'est-ce que tu fais? Alors, le premier dit, je taille une pierre. Le deuxième, il dit, moi, je fais une sculpture. Et le troisième, il a une autre vision. Il dit, je construis une cathédrale. Nous avons besoin d'être conscients que l'œuvre est immense. Et chacun de nous a reçu une qualification pour y travailler. Afin que de nouvelles pierres puissent s'ajouter à l'édifice. Que vos reins soient sains. C'est la volonté de Dieu que le Maître nous trouve les reins sains. C'est-à-dire, c'est l'image de la tenue de travail. C'est pas le pyjama ni la chemise de nuit, hein, vous serez d'accord avec moi. Vous savez que la longue robe orientale, elle devait être relevée, retenue par une ceinture, afin que chacun ne soit pas gêné, chacun soit libre dans son activité. Nous sommes appelés à vivre dans l'attente du moment où le Seigneur va venir nous mettre en possession de son royaume glorieux. Nous sommes appelés à vivre dans l'attente du moment où le Seigneur va venir nous mettre en possession de son royaume glorieux. Ça doit nous réjouir, ça, non? Parce que dans les jours difficiles, nous avons besoin de lever les yeux. C'est une joie, c'est vrai, de louer le Seigneur. C'est une joie de le servir, on peut trouver. Mmh. Une joie dans le service. Mais attention, notre source, c'est pas l'activité. Notre source, c'est pas la louange. Notre source, c'est Jésus. Mmh. Faut jamais l'oublier, ça. Hein. C'est subtil. Hein. Notre source, c'est Jésus. C'est lui l'objet de notre louange. En notre espérance, c'est pas seulement le ciel, non? C'est pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a encore quelque chose de bien plus grand, de plus précieux, de plus glorieux. Notre espérance, notre trésor, c'est une personne. C'est Jésus. Nous serons semblables, quand nous le verrons, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, c'est pas que, du profond, du tréfond, comment dire, de nos cœurs, ce cri puisse jaillir chaque jour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Et ça correspond bien sûr à ce qui est écrit dans Apocalypse 22, 17. L'esprit et l'épouse disent, viens. Il y a là une aspiration profonde, un immense désir de voir Jésus, un immense désir d'être avec lui. Que vos lampes soient allumées. Bon. Alors les lampes nous font penser par exemple à la parabole des vierges, bien sûr, de Matthieu 25. Une parabole que vous connaissez bien. Je ne vais pas vous la relire. Cinq folles, cinq sages. Moi, ça me fait penser tout de suite à Matthieu 24, 40. L'un sera pris, l'autre laissé. Hein. Ouais. Cinq folles, cinq sages. Donc ça ne veut pas dire que la moitié, etc. On ne va pas faire des pourcentages. Mais c'est vrai qu'il y avait là l'allusion à un usage oriental. Les noces se célébraient la nuit. L'époux se rendait le soir à la lueur des flambeaux chez sa fiancée, afin de l'épouser, de l'emmener dans sa maison. Les amis de la noce sortaient au devant de l'époux et prenaient part, bien sûr, au banquet qui avait eu lieu chez l'époux. Je ne sais pas si quelqu'un a connu ça pour son mariage. Nous, non, on n'a pas fait ça quand même. On n'a pas fait comme ça. Mais c'est un usage oriental. Alors, ces vierges qui attendent l'époux, ils symbolisent la pureté de la vie des chrétiens qui sont réellement dans l'attente. Hein, c'est pas les... Ces vierges-là ne symbolisent pas l'Église qui n'attend pas. Hein, elles symbolisent l'Église qui attend. Hein, elles symbolisent aussi la pureté de cette partie de l'Église qui attend le Seigneur. Mais vous savez, c'est écrit sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi de l'huile? Est-ce que nous n'avons pas besoin de l'Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit? Le problème des vierges folles, c'est qu'ils avaient eu jusqu'ici une certaine piété, une moralité, bien sûr, mais juste ce qu'il fallait, vous savez, le minimum légal, sans désir spirituel profond, sans aspiration spirituelle, sans plénitude. Bon, on n'est pas des fanatiques quand même. Alors c'était certainement leur expression peut-être. La petite flamme vacillante leur suffisait. Il est tranquille. Et Matthieu 25 nous dit qu'au milieu de la nuit, la deuxième ou la troisième veille, certainement, au milieu de la nuit, c'est ça, hein, voici l'époux, allez à sa rencontre. Au moment où la lampe doit briller le plus de son éclat, il y a une prise de conscience, une catastrophe, celle du vide spirituel intérieur. Il n'y a plus assez d'huile, il n'y a même plus d'huile. Que vos lampes soient allumées, mes frères et sœurs. Que vos lampes soient allumées, qu'elles le soient encore au retour du Seigneur Jésus. Ça peut être proche. Les événements s'accélèrent. Alors l'huile qui alimentait ces lampes, bien sûr, nous font penser à ce qui est écrit dans Éphésiens 5, 18. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. Moi, je vous juge pas, je juge personne, hein, je me juge premièrement, mais est-ce que nous veillons suffisamment? Est-ce que nous avons suffisamment d'aspiration, de désir d'être remplis du Saint-Esprit? Vous savez, c'est facile de se relâcher, et c'est vite arrivé. Le temps n'est pas notre ami. Le temps n'est pas notre ami. Alors, Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et vous savez qu'il a dit aussi dans Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Ah oui, il a aussi dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, enfin sous un récipient. Mais on la met sur le chandelier ou sur le lampadaire, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous sommes une lampe appelée à briller ici-bas pour un temps. Temps passe vite, vous vous rendez compte? À refléter Jésus. Alors les lampes allumées, bien sûr, nous parlent de la vie spirituelle, il nous parle du témoignage fidèle. Les ténèbres, ils vont de plus en plus s'épaissir, et on le voit aujourd'hui. On le voit aujourd'hui, bien sûr. Et plus la lumière des véritables enfants de Dieu doit briller dans ce monde. Éphésiens 5,8 nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marcher comme des enfants de lumière. Nous sommes tous appelés à briller. À briller de plus en plus. Hein, à refléter la beauté de Jésus, sa sainteté, son amour. Il y avait un chant que je chantais à l'école du dimanche. Ah oui, je suis allé à l'école du dimanche. Hein.
Ah oui,
bon, c'était pas hier. C'est passé. Il y en a pas mal qui n'étaient pas nés encore. Ça, c'était en 1950 à peu près.
Ah oui.
Alors, il y en a qui n'étaient pas nés.
Ah oui, beaucoup.
Ouais. Et ce chant disait, le monde est plein d'ombre. Brillons, brillons bien. Toi dans ton coin sombre, et moi dans le mien. Amen. Ah ouais. Je chantais ça, rendez compte, en 1950.
Vous pouvez nous le chanter.
J'ai quelques trous dans la mémoire, là il faudrait que je reprenne le cantique des ailes de la femme. Je dois l'avoir. Hein. Eh oui. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque temps, on avait pris l'image du bateau phare. C'est une belle image, le bateau phare. Ce fameux bateau qui était dans la Manche, au large du Havre, et qui est ancré sur un point fixe, et qui permettait aux navires qui arrivaient, par exemple d'Amérique ou d'ailleurs, d'avoir un point de repère pour pouvoir entrer dans le port du Havre. Hein, c'est un bateau qui a été construit en 1935, qui était remplacé par une bouée, maintenant tout est automatique. C'est le progrès. Hein, il a même été classé monument historique en 2017. Il est encore dans le port du Havre. Si un jour vous allez au Havre, vous pouvez aller voir. C'est un bateau rouge avec un phare au milieu. Je l'ai visité de fond en comble. Ce bateau, il a été ancré à un point fixe, ballotté par les tempêtes, hein, l'hiver, ouais, ouais. Il diffusait sa lumière, fidèlement, hein, pour indiquer le port. C'est un peu ce que nous sommes, hein. Au milieu du monde, non, croyez pas. Il y a bien des jours, on est un peu ballotté. Hein. Il y a des jours, on a un peu de mal, hein, c'est ça. Mais nous sommes appelés, quoi que soient les circonstances, à toujours continuer de montrer le port. Alors c'est peut-être un peu simpliste, mais pourrions continuer un petit peu. Je ne vais pas être trop long quand même, hein, je crois. Mais nous voyons continuer sur cette pensée des phares. Il y a quelques pensées sur les phares. On pourrait prendre d'autres images. Les phares, ils signalaient aussi les récifs. Il signalait les zones dangereuses de la côte. Et il n'avait pas que pour but d'éclairer les côtes. Avant qu'il y ait des satellites qui tournent autour de nos têtes, ils étaient très utiles. S'il y avait une erreur de navigation, de calcul, les marins, ça leur permettait de se repérer et de rectifier leur route. Alors cela fait partie aussi de notre mission, hein, dans ce monde ténébreux et sans repère, d'avertir ceux qui risquent le naufrage. Même en France, il y a des gens qui ne sont instruits sur rien sur les choses de Dieu. Ils ne savent rien de l'œuvre de la croix, pratiquement. Ils ne savent même pas pourquoi Jésus est mort, ils ne savent même pas pour qui. Ils sont ballottés par les flots, ils ne savent même pas qu'ils risquent de se perdre pour l'éternité. Ah oui, hein? Moi, il y avait un lascar comme ça qui travaillait avec moi. Un jeune homme. Et le jour où il s'est converti, gloire au Seigneur. Le Seigneur l'a touché, il a amené toute sa tribu, toute sa famille, il l'a amené à Christ. Il a été une lumière. Il a été une lumière dans sa famille. C'est pas facile d'être une lumière dans sa famille. Parmi les familles d'inconvertis, hein, c'est pas facile toujours. Hein, ils sont pas prêts à nous écouter, pas souvent, quoi. Mais quand ça arrive, ils vont profiter. Moi, je me rappelle, j'avais des cousins qui étaient venus, là. Quelques cousins, on avait plusieurs à la maison, et puis, bien sûr, avant de manger, on a rendu grâce. Mais c'est le Seigneur. Ils avaient tous les larmes à l'œil, après. L'Esprit de Dieu les avait touchés, c'était pour moi. L'Esprit de Dieu les avait touchés, ils avaient tous les larmes à l'œil. C'est important, quelquefois, on se dit, oh, on va rendre grâce, ça leur plaît pas, etc. Il faut y aller. Pas avoir peur de prier pour eux s'ils ont des circonstances difficiles où il y a un membre de la famille en difficulté ou malade. Il faut y aller. Bon, on va pas prier pendant une demi-heure, bien sûr, parce que ça les lâcherait. Hein, moi, j'avais ma tante qui était à côté, qui était une brave femme, gentille comme tout, mais elle était incroyante, athée au dernier degré, et quand on priait, elle prenait son couteau puis elle tapait sur le verre. Ding, ding, ding. Et oui, c'est pas toujours facile. Mais il faut s'amener quelque part. Il faut allumer notre lampe. Gloire au Seigneur, il faut que ça brille. Alors sans entrer dans les détails, chaque phare possède ses propres caractéristiques, sa façon à lui d'éclairer l'horizon. Certains phares sont des feux à secteur. C'est-à-dire qu'ils ont des faisceaux lumineux qui sont quelquefois rouges ou verts ou blancs pour indiquer la route à suivre. Alors comme les phares, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents, nous avons chacun notre personnalité, et l'Esprit de Dieu ne dépersonnalise personne. Nous avons tous reçu des dons différents, nous avons tous reçu au moins un don. Nous sommes membres du corps de Christ et chaque membre dans le corps a son utilité. Certains vont avoir reçu quelque chose pour attirer, pour toucher les perdus, pour les avertir, pour les aider à se réconcilier avec Dieu. Puis d'autres vont davantage avoir reçu quelque chose pour consoler les frères et sœurs, pour être un support, pour les soutenir. Vous savez ce que dit un Thessaloniciens 5,14 ? Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Ah, c'est pas facile, là. Il faut vraiment demander tout le secours du Seigneur, puis être rempli de son amour. Hein, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Les critiquez pas seulement, supportez-les. Usez de patience envers tous. Ah, je ne sais pas si c'est votre qualité première, la patience. Non? Il y a quelqu'un qui est patient au milieu de nous? Non? Il y a Josiane. Beaucoup de patience parce qu'elle m'a supporté depuis 61 ans. Patience, hein. Il faut... Il faut quand même qu'elle le soit. Quand nous avons tous un travail, nous avons tous une mission à accomplir dans l'œuvre de Dieu. Alors, c'est vrai que pour se repérer, enfin avant surtout d'ailleurs, quand il voyait un phare, il restait au marin à déterminer quel était le type de phare qu'il avait devant lui. Hein. Il comptait les périodes d'éclairage, de lumière, les périodes d'obscurité, il mesurait le cycle selon lequel tout cela fonctionnait, et puis il avait un livre, c'était le livre des phares. Donc il regardait dans son livre, où tous les codes des phares étaient indiqués, et ça existe toujours d'ailleurs, toujours des livres de phares. Hein, ça peut même être utile aujourd'hui, si le GPS marine est en panne. Et nous avons, nous, un livre qui brille sur notre route. Vous le connaissez ? La Bible, la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Il y a un autre livre. C'est le livre de vie de l'agneau. Il est mentionné hein, dans la parole de Dieu. Hein. Par la grâce de Dieu, nos noms y sont inscrits si nous avons fait la paix avec le Seigneur, si nous avons demandé pardon pour nos péchés, si nous l'avons reçu comme notre sauveur dans notre vie, si nous vivons avec lui, hein, nos noms sont écrits. En ce qui concerne la Nouvelle Jérusalem, d'ailleurs, Apocalypse 20, 21, 27 nous dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. » Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Jésus a mis en avant d'ailleurs ce qui devait faire la joie des disciples bien avant les victoires et les réussites qui auraient pu les rendre orgueilleux. Ah oui, quand tout va bien, quelquefois... Hein, quand on a de la réussite dans le témoignage ou autre, on pourrait se glorifier. Hein. Mais c'est vrai que Luc 10, 20, le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alors je vais terminer. Bon, j'ai pas été trop long, un peu. Ça va. Dans Apocalypse 3:5, Jésus nous a fait une merveilleuse promesse. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, devant ses anges, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Amen.
Amen.
Amen. Sois loué, Père. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout par la croix, c'est qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux. Bye.